Le journal des idées, Jacques Meunier.
Oui, une vingtaine d'associations, d'ONG, de syndicats et partis politiques s'engagent en faveur d'un maintien de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en cas d'abandon du projet d'aéroport. Leur tribune est publiée par Mediapart et Jade Lingard, qui avait réalisé plusieurs reportages sur le terrain pour le site d'information en ligne, relaie leur soutien à, je cite, « l'expérimentation sociale à ciel ouvert qui se déroule sur les hectares occupés par le mouvement anti-aéroport ». Dans un monde miné par l'individualisme, le gaspillage des ressources naturelles, les crises sociales et environnementales, le bocage de Notre-Dame-des-Landes doit rester une terre d'inspiration et d'espoir, nourrie par l'idée des biens communs, les solidarités et le soin du vivant. On voit bien qu'au-delà des arguments écologiques, c'est la perspective utopique d'un renouvellement de la politique qui anime ce mouvement. Pour de nombreux intellectuels engagés dans la cause environnementale, c'est d'ailleurs la seule véritable issue au problème posé par le réchauffement climatique et la dégradation de la biosphère, un changement radical de nos modes de vie, de consommation, de prédation des ressources. L'Anthropocène renouvelle notre philosophie politique, affirment les coordinateurs du dossier proposé par la revue Esprit dans sa dernière livraison. Donner leur place aux contenus sociaux des contraintes écologiques, c'est rouvrir la possibilité de la politique, d'une action politique autonome, écrit la philosophe Catherine Larère. Et Bruno Latour relève que les questions écologiques ne peuvent pas reposer sur l'appareil normal de l'État. Ce dernier s'occupe toujours de ce que les militants sont parvenus à rendre visible avant. Tel est l'intérêt des zones à défendre. Le sociologue observe que les questions écologiques restent extérieures aux préoccupations sociales tant qu'il n'y a pas de peuple capable de les lier. Il estime dans un entretien intitulé « Une terre sans peuple, des peuples sans terre » qu'il faut trouver un peuple correspondant à la question écologique de la même manière qu'il y a eu longtemps un peuple qui correspondait à la question sociale. En prenant du champ, il déduit de l'attitude du président américain qui déserte le monde commun et déclare la guerre aux pays qui font les preuves de la mutation écologique en prétendant que leurs problèmes ne le concernent pas, qu'il reconnaît ainsi clairement que l'environnement est la grande question géopolitique du moment. Ce qui conduit Bruno Latour à développer l'hypothèse d'une fuite généralisée vers l'offshore des classes possédantes qui ont optimisé leur magot au soleil des paradis fiscaux en creusant les inégalités et en séparant leur monde à coups de frontières et de murs érigés autour de l'American Way of Life. La conjoncture forme un triangle, résume-t-il. Premièrement, l'horizon de la mondialisation continue sous la forme baroque d'une hyper-modernisation futuriste et post-humaine. Deuxièmement, une régression massive dans tous les pays vers des appartenances ethniques ou nationales. Et troisièmement, la question d'une autre façon d'être au monde, d'un ancrage au sol mondial qui n'est pas le sol barésien fait de sang, de morts, de cimetières et d'églises. C'est là qu'il faut tracer une nouvelle opposition entre l'horizon utopique du retour au sol natal et la question nouvelle du terrestre. Dans ce contexte, l'Europe est à la bonne échelle. Face à l'abandon simultané des États-Unis et du Royaume-Uni, l'hostilité toujours aussi pressante de la Russie et la concurrence de la Chine semble se dessiner en creux l'Europe comme zone à défendre. D'autant que derrière les défis que nous peinons à relever s'en profilent déjà d'autres. Dans un ouvrage au titre éloquent, La guerre des métaux rares, publié au Lien qui libère, Guillaume Pitron explore la face cachée de la transition énergétique et numérique. Il s'en explique dans les pages débat de l'Obs. Les technologies dont on attend la solution à nos défis environnementaux sont avides de métaux rares dont l'extraction est extrêmement polluante et qui nous place dans une situation de grande dépendance vis-à-vis de la Chine, laquelle développe une impressionnante stratégie à long terme sur son sol et ailleurs, en Afrique notamment. Les moteurs électriques, les éoliennes, le solaire ainsi que les technologies numériques, des téléphones portables aux infrastructures informatiques sont truffés de ces métaux aux noms barbares, antimoine, germanium, lithium, cobalt, bismuth, terres rares. Si vous faites le calcul sur l'ensemble du cycle de vie des voitures électriques et de leurs batteries, depuis les mines dans lesquelles sont extraits les métaux jusqu'aux décharges, elles consomment autant d'énergie primaire, fossile, nucléaire, etc. qu'un véhicule diesel, résume Guillaume Pitron en citant un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise conservatrice de l'énergie. Selon lui, ce mirage de la transition énergétique et numérique nous détourne de la vraie révolution que nous devrions entreprendre, celle de nos modes de consommation, de nos comportements, de notre philosophie. Et par exemple, comme le suggère Jérémy Rifkin, passer d'un monde de la propriété à un monde de l'accès et du partage.